de notre groupe. Je commence une série d'exposés que je place sous le chapeau très général d'aperçu d'histoire des dogmes. Il ne s'agit pas d'études fouillées qui couvrent l'ensemble de toute l'histoire de l'Église et toutes les questions. Je ne serais vraiment pas capable de vous présenter pareille chose, mais quelques aperçus. Bon, j'espère que j'y parviendrai. Et le sujet que j'ai choisi pour commencer, c'est celui de l'autorité en matière de foi dans l'Église. Je pense que nous pouvons avoir 2, 3, 4 études ou exposés, disons, 2, 3, 4 séances qui soient consacrées à ce sujet. Aujourd'hui, la période sur laquelle nous devons concentrer notre regard est celle des premiers siècles de l'Église. Je pense que nous devrions considérer ensuite très brièvement le Moyen-Âge, mais surtout la grande crise du XVIe siècle avec la Réforme, que nous pourrions ensuite considérer les temps modernes, en une ou deux fois peut-être. Nous pouvons d'ailleurs démultiplier, si nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'exposé que j'ai préparé, tant pis. Nous prenons le temps ensemble pour n'être pas sous une contrainte trop rigide dans nos entretiens. Interrompez-moi, vous le savez, que vous en avez toujours la liberté. Si quelque chose vous paraît obscur, incomplet ou tout à fait à corriger, disons, n'hésitez pas à le faire. Le motif de mon choix est double. Pourquoi ai-je choisi, n'est-ce pas, ce sujet pour commencer? D'abord parce qu'il assure une certaine continuité dans nos travaux. Nous nous sommes penchés ces dernières fois sur le sujet de l'écuménisme et de notre rapport au divers écuménismes possibles. Or, la question de la tradition ecclésiastique, de son rôle, du magistère éventuel de l'Église, joue un rôle très très important, au moins pour tout ce qui touche à l'écuménisme entre protestants et catholiques, et orthodoxes orientaux sans doute aussi. Alors, en prenant ce sujet, après que nous nous sommes entretenus de l'écuménisme, je pense que nous faisons une transition assez naturel. En second lieu, donc deuxième élément de mon choix, je pense qu'il faut souligner l'intérêt que le problème possède en lui-même. Il n'a pas un intérêt simplement historique, mais le problème de l'autorité en matière de foi se pose à toute Église, et à notre Église aussi. Et il ne suffit pas, contrairement à ce que certains imaginent parfois, de répondre en disant « la Bible seule ». C'est un élément cardinal de réponse, bien entendu. Mais il faut encore savoir comment on y vient. Il faut savoir aussi ce qui reste ensuite quant à l'interprétation de cette Bible. Quelle autorité doit-on attribuer à ceux qui ont un ministère spécial? Ceux du passé, ceux du présent? Il y a un problème de l'autorité qu'on joint à celle de la Bible, peut-être pas au même niveau. Mais celle des confessions de foi, par exemple, aussi. Et il faut s'interroger sur le sujet. L'avantage de la première période de l'Église ancienne, c'est qu'on y voit toutes les tendances à l'état naissant. Vous savez qu'en chimie, par exemple, certains éléments semblent posséder des vertus particulièrement exaltées lorsqu'ils sont à l'état naissant. Une sorte de virulence juvénile leur appartient. Les tendances qui se sont développées ensuite dans l'histoire de l'Église sont apparues dès le IIe siècle. C'est là qu'on les voit naître et puis se consolider au IIIe. Et je crois qu'il est intéressant pour nous de les observer à ce moment, pour bien comprendre ce qu'elles sont devenues ensuite et pour bien voir quels types de problèmes peuvent se poser à nous également bien plus tard. Alors, du point de vue de la bibliographie, j'ai apporté ce dont je me suis servi pour préparer ce petit exposé. C'est l'occasion en même temps de vous recommander certains ouvrages. Je ne parle pas des ouvrages même très autorisés que je ne connaîtrais pas. Je ne suis pas donc spécialisé en histoire et il se peut qu'il y ait des ouvrages relativement plus récents, mais je crois pas beaucoup en français en tout cas, qui couvrent le terrain de notre étude. Il n'y a qu'un seul ouvrage vraiment récent dans ceux que je vais vous présenter, mais qui est très intéressant. Les autres sont déjà assez anciens. Vous pouvez éventuellement les trouver d'occasion dans les librairies de théologie du quartier Saint-Sulpice. C'est là en général qu'on peut découvrir certains livres intéressants. Certains d'entre eux peut-être, c'est pas impossible, mais enfin j'en doute quand même pour la plupart. Parce que c'est quand même en général, d'une technicité qui est un peu supérieure à ce que la plupart des livres de la bibliothèque de l'Église comportent. C'est un peu plus fouillé, c'est un peu plus difficile à lire, si vous voulez, mais un peu plus solide académiquement. C'est pas du petit lait, c'est pas du sirop pour adolescents spirituels, c'est déjà davantage de la viande. Alors, le livre récent, qui couvre malheureusement une période très brève et pas tous les sujets, mais qui est très bien fait, que vraiment je peux recommander vivement, c'est celui de Marc Lods, L-O-D-S, Précis l'histoire de la théologie chrétienne, du 2e au début du 4e siècle. Donc on ne va pas très loin dans l'histoire. Le livre n'est pas très long, c'est un livre de moins de 200 pages, bien qu'il y ait pas mal de petits caractères aussi. Alors. Chez Delachaux et Niestlé, dans la collection Bibliothèque théologique. Sur notre sujet, il y a un dernier chapitre qui ne couvre pas tous les points qui peuvent nous intéresser, mais plusieurs d'entre eux, en particulier sur le canon de l'Écriture, et sur la confession de foi, les symboles confession de foi, vraiment c'est remarquable, c'est très très bien. Je signale que la réussite d'un tel travail, son orientation très, très saine, sont vraiment un motif d'action de grâce pour nous. Nous montre que le Seigneur peut très bien conduire des hommes loyaux et sincères, alors même que leur arrière-plan n'est pas très, très recommandable, donc il peut conduire de tels hommes vraiment dans des voies heureuses. Monsieur Marc Lods, qui a été doyen de la faculté de théologie de Paris, faculté de théologie protestante de Paris. Quand j'ai commencé là mes études supérieures, c'était lui le doyen, est le fils d'un des plus grands libéraux que la science de l'Ancien Testament protestante ait connu en France. Son père était un très grand bonhomme, professeur en même temps à la faculté de théologie protestante de Paris et à la Sorbonne. Et Adolphe Lods a écrit des livres très, très fameux, mais alors ultra-libéraux, au sens que nous donnons habituellement au terme, c'est-à-dire comportant des thèses qui ruinent l'autorité de l'écriture sur bien des points. Son fils, Marc Lods, sans avoir manqué, je crois, de respect filial à l'égard de son père, qui devait être, dans sa personnalité, un homme très bien, hein, moi je ne l'ai pas connu du tout, mais son fils, Marc Lods, devenu professeur de patristique, donc sa spécialité a été père de l'Église et leur théologie, a vraiment abouti à des positions qui ne sont peut-être pas strictement les nôtres, mais qui ne sont pas éloignées, qui sont vraiment solides sur les principales affirmations de la foi. Alors, parfois nous avons un peu l'impression que si quelqu'un commence à faire quelques concessions libéraux, ça y est, c'est perdu, ça ne peut être que la dégringolade, la glissade jusqu'au bout de l'abîme, n'est-ce pas ? Eh bien, pas toujours. Le Seigneur est bon, peut aussi susciter des évolutions inverses. C'est pas la seule, d'ailleurs, que je connaisse, d'évolutions inverses. Alors, réjouissons-nous de cette capacité de la grâce de Dieu. En tout cas, du point de vue donc de la bibliographie de notre sujet, je trouve que cet ouvrage est fort bien fait.
La remarque est très intéressante. Est-ce que c'est la rigueur intellectuelle, donc, qui peut conduire quelqu'un qui a un arrière-plan ou qui aurait toutes les raisons de ne pas aboutir là, d'y arriver quand même. Est-ce que c'est la rigueur intellectuelle et seulement, ou est-elle dissociable d'un engagement personnel? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons inférer de cela que M. Marc Lods, dans ses convictions profondes, est proche de nous maintenant.
Je, Je crois, parce que je le connais quand même personnellement, qu'il nous l'avons invité dans le cercle de théologie, quand il avait un cercle de théologie évangélique, lorsqu'il se réunissait à Paris. Je crois vraiment que M. Lowe est proche de nous, il est à la retraite maintenant. Un cercle luthérien, parce qu'il est luthérien, pas de confession, m'avait invité à parler sur l'autorité de la Bible. Et il y avait là M. Lowe présent, aussi, il y a deux, trois ans, et il m'a fermement soutenu, il a été très, très cordial. C'est dire qu'il ne s'agit pas seulement de sa rigueur scientifique dans le traitement des pères de l'Église, mais aussi de sa conviction personnelle. Alors, dans quelle mesure peut-on dissocier? On peut dissocier jusqu'à un certain point. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une piété, je crois, vraiment saine, des convictions quand même solides, au fond. Ils sont capables, parce qu'il y a une sorte de schizophrénie, pourrait-on dire, de décalage curieux, de discontinuité dans leur pensée, ils sont capables d'enseigner sur tel ou tel problème biblique des choses qui sont vraiment incompatibles avec l'autorité de la Bible. Je pense qu'en gros, on peut dire que c'était le cas d'un homme pour lequel j'ai gardé beaucoup d'estime, M. Frank Michaeli, qui était professeur de l'Ancien Testament dans la même faculté, à la même époque que M. Lowe. M. Michaeli avait une prédication très bienfaisante, et à ce plan-là, il n'était pas loin de nous. Mais professeur d'Ancien Testament, formé par Adolphe Lowe, précisément le père de M. Marc Lowe en Ancien Testament, il admettait des thèses de critique qui vraiment ne nous paraissent pas compatibles avec la fermeté évangélique. Bon, alors ça donnait quand même certains points de faiblesse à la conviction personnelle de M. Michaeli. Mais il s'en accommodait, il y avait une espèce de décrochage qui devait se faire. Et alors, après avoir été, parce qu'il était quand même justement beaucoup trop positif pour certains autres, après avoir été licencié de la faculté de théologie protestante de Paris, il avait juste atteint la limite d'âge, mais enfin, habituellement, non. Il était encore en pleine force, on aurait pu le maintenir, mais c'était après 68, c'était le vent qui soufflait était très défavorable à son type de prédication. Alors, il avait été mis à la retraite, à la faculté de Paris, et il a accepté de prêter son concours, très humblement, parce qu'il s'agissait uniquement des cours d'hébreu, c'est-à-dire ceux pour lesquels la théologie importe quand même relativement peu, à la faculté d'Aix, qui est donc une faculté de tendance évangélique, qui était très, très fortement attaquée dans le milieu réformé. Ce qui veut dire que, oui, encore il a montré sa conviction personnelle et son courage personnel aussi.
Cette histoire-là me paraît très importante. Je pense à une paquette que je viens de dire là sur la délivrance, donc sur les questions champ charismatisme. Et chez nos frères catholiques, je n'hésite pas à employer cette expression-là, particulièrement après avoir lu cet opuscule, qui est le résultat d'un colloque, où on se sent très très proche de ses frères, dans leur compréhension de toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on en est profondément réjoui et édifié intérieurement. Et puis brusquement, il y a un chapitre, par exemple, sur la Vierge Marie et l'Immaculée Conception, où brusquement l'on voit tout ce qui appartient à Christ et à son œuvre rédemptrice glisser véritablement comme une montagne s'éboule. Et ben, tout ceci glissé au bénéfice de la Vierge Marie, et voilà, repartie, la pensée repartie dans les ornières de l'enseignement de l'Église catholique sur ce point-là. Alors, je me pose la question, et elle nous intéresse nous-mêmes pour nos propres dérives personnelles, comment cela peut-il se faire que...
Oui. Ah, parfois, je reste médusé par la patience de Dieu qui tolère chez ses serviteurs, sans détourner de sa face, parce qu'il continue d'avoir une véritable communion avec lui, des erreurs qui paraissent graves. Donc nous devons nous dire qu'il le fait peut-être aussi avec nous, que lorsqu'il voit que c'est curable à assez bref délai, alors bon, il nous montre un visage irrité, nous fait subir un échec, etc., qui nous est douloureux, mais pour que nous puissions alors nous interroger et puis nous corriger. Mais j'ai l'impression que quand Dieu voit que nous ne sommes pas encore mûrs pour cette correction, alors dans sa patience, sa clémence, comme disent certains de nos cantiques, c'est un beau mot hein, qu'on n'emploie plus guère dans notre vie de tous les jours, mais il nous laisse quand même bénéficier de cette chaleur de l'accès jusqu'à lui, bien que nous soyons coupables d'erreurs peut-être assez sérieuses. C'est la seule façon dont je m'explique le fait que tu évoques, qui est un fait réel, je crois. À propos d'ailleurs de la Vierge Marie et des frères catholiques charismatiques, je serais heureux que vous priez pour moi. Je dois écrire un article sur les données bibliques concernant la Vierge Marie pour la revue catholique charismatique Tichic. C'est une petite revue de ce milieu-là, fort sympathique. J'ai déjà l'année dernière écrit un article qui m'avait demandé sur la lecture de la Bible. Alors ils font écrire des gens d'un peu toutes tendances. Et bon, il y aura un article par un prêtre sur ces données bibliques. Et puis ils m'ont demandé aussi un article. Alors il s'agit que je sois fidèle à l'écriture et que je sache l'exprimer d'une manière qui soit aussi efficace que possible pour l'honneur du Seigneur. Il doit faire ça, je pense, en gros, pour la mi-mars. Alors.
Moi, je pense que les dogmes constituent, dans une certaine mesure, un carcan, un emprisonnement, de sorte que quelqu'un qui écrit très bien, comme celui que je venais de signaler, débouche dans ce carcan, il a été moulé dans ce carcan-là.
Oui, oui.
Il faut qu'il parle de ça. Monsieur Michaelis, dont vient de parler, qui avait de très bonnes prédications, pouvait quand même se référer à ce qu'il avait reçu de son maître. Donc moi, je crois que ces dogmes, ces enseignements, ils risquent d'emprisonner un peu les esprits, enfin l'esprit de Dieu travaillant dans la liberté. Je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas moins tolérants en croyant que nous détenons la vérité et que les autres sont dans l'erreur. Enfin, je sais pas, vous avez émis une réserve qui est très bonne en disant que Dieu dans sa grâce c'est ça m'a réjoui, mais quand même, je me pose la question de savoir si on n'est pas trop exclusif.
Je crois que c'est une difficulté à laquelle nous devons faire face, ou savoir poser l'équilibre entre la fermeté nécessaire sur la foi transmise au sein une fois pour toutes, et puis tolérer la diversité des optiques et même des convictions sur des points précis. Je crois qu'il y a là nécessairement une sorte de tension pour nous. Nous devons trouver le bon dosage, et ce n'est pas facile a priori. Mais je dirais, en tout cas une chose avec énergie, c'est qu'il serait pour nous tout à fait illusoire de penser que nous pouvons nous abstraire d'influences qui nous ont façonnés, qui nous ont aidés. Bien sûr, certaines ont le caractère d'un carcan, sont très rigides, d'autres sont des influences moins contraignantes, mais nous ne sommes jamais dans le vide, juste la Bible et puis nous. En fait, nous sommes solidaires de toute une éducation, formation, même la manière dont la Bible est traduite, est aussi marquée par une certaine tradition. Alors ce qu'il faut, c'est, me semble-t-il, prendre conscience des éléments d'influence qu'on a subis, savoir quelles sont les diverses options pour prendre ses responsabilités en toute lumière, devant Dieu, chacun. Et le sens, au bout du compte, de notre recherche de l'histoire des dogmes, si nous engageons dans de telles recherches aujourd'hui, c'est de nous permettre d'être plus lucides, de mieux nous rendre compte des influences qui ont joué dans l'histoire et dont nous sommes peu ou prou les héritiers. Ça doit nous permettre d'être moins sectaires si notre tentation est d'être exclusif dans l'ignorance, et d'être aussi plus fermement établi lorsqu'il s'agit de vérité. pour lesquels tous nos prédécesseurs nous ont, en quelque sorte, donné les matériaux de fondation souhaitables.
Il y a une question à ce sujet-là qui me semble importante, tandis que nous entrons, nous abordons cette histoire des dogmes dans l'Église des premiers siècles, et la question se pose pareillement pour nous. Tu parles de trouver donc la juste mesure, l'équilibre entre une attitude d'intolérance et une attitude de vigilance et de l'ouverture à ce que d'autres ont vécu avec le Seigneur. Mais nous pouvons être amenés, nous, à prendre telle position et l'ensemble de l'Église n'est pas nécessairement, on n'a pas cheminé de la même façon et n'est pas toujours en mesure de comprendre que tel ou tel prenne telle position, face aussi cette histoire des viandes, des jours, ça justement ce matin. Alors, est-ce que dans l'Église primitive, le débat sur les questions fondamentales avait lieu à la base, comme on dit aujourd'hui, ou est-ce que c'était seulement une querelle de théologiens? Et est-ce qu'aujourd'hui, à propos de l'œcuménisme et à propos des engagements que tel ou tel dans les églises évangéliques, et tel ou tel responsable, tel ou tel personnage en vue à cause de sa, disons, de son rôle, est amené à prendre, est-ce que ça n'est pas une chose qui doit plus largement aujourd'hui se discuter avec l'ensemble de l'Église, ou est-ce que c'est une occasion de chute et qu'il vaut mieux pas parler de cela avec des frères qui seraient moins avancés dans cette réflexion?
Si je me réfère au Nouveau Testament, je pense quand même que je suis obligé de donner une réponse nuancée. Je pense à la rencontre de Jérusalem, qu'Acte 15 nous rapporte. Ce sont les anciens de l'Église et les apôtres. C'est quand même pas l'ensemble de tous les membres de l'Église qui semble avoir eu voix au chapitre dans cette rencontre pour régler une question doctrinale qui divisait les Églises. Alors, bien sûr, c'était le temps apostolique, avec les apôtres présents, capables de se prononcer. Il y a aussi la distinction que fait la fin d'Hébreux 5, qui est quand même très marquée entre ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice, le bon discernement de ce qui est bien et mal, juste et faux, et puis ceux qui, donc, par un exercice approprié, en sont capables. Il y a cette distinction dans l'Écriture. Mais d'autre part, à coup sûr, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas un clergé séparé. Ceux qui ont des ministères sont des jointures dans le corps. Et c'est là l'image qu'emploie l'Épître aux Éphésiens, et non pas donc une sorte de membre surajouté aux autres, au-dessus des autres membres. Ils doivent jouer dans le corps. Et ce qui est corps de Christ, c'est l'ensemble des fidèles. La meilleure façon, mais je parle ironiquement, de laisser dans leur incapacité à discerner les simples fidèles, c'est justement de faire une séparation en disant « c'est pas pour vous », ne jamais les éduquer à l'appréhension des questions délicates, oui, en disant « c'est pour les spécialistes seulement ». Ce cléricalisme est quelque chose qui me paraît éloigné de l'Écriture aussi. Paul dit, par exemple, dans le sens donc de toute une église interpellée, « Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez-vous-même ce que je vous dis ». Donc là, nous avons un exemple d'appel à la réflexion, au discernement de tous. Dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il est question de l'examen que doivent subir les paroles prophétiques, les paroles que les prophètes prononcent, c'est dit que les autres jugent, et je pense que l'interprétation c'est là que les autres prophètes jugent, mais avec le reste de l'Église. qui doit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. En tout cas, cette parole de 1 Thessaloniciens 5 est dite à toute l'Église, examiner toutes choses. Nous avons l'exemple aussi, que je ne m'ai pas prêté à citer, des Béréens. Là encore, ce sont tous les Béréens, ce n'est pas un groupe de clercs auquel serait réservé cet examen doctrinal. Manifestement, s'ils sont cités, c'est à titre d'exemple recommandable par le livre des Actes. Donc c'est pour ça que je dis, je suis obligé de donner une réponse assez nuancée si je me réfère au Nouveau Testament.
Mais ne devrions-nous pas alors, pour l'information de nos frères et pour justement éviter cette séparation dans l'Église entre les clercs et les laïcs qui n'a que trop tendance à se marquer, informer nos frères plus largement et demander la prière, comme tu viens de le faire au sujet de cet article, les informer de la position avancée peut-être que nous sommes conduits à prendre, mais dont nous mesurons les risques, et disons le fait de les informer, les associer à une telle démarche, peut les rendre tout à la fois plus ouverts et plus vigilants. Alors que s'il y a ignorance, on se tient en retrait sur des positions qui sont tranchées, faciles, je dirais, à tenir, parce que simplistes.
Eh oui. Bon, je continue ma bibliographie. Sur les autres titres, j'en dirai beaucoup moins. Autre ouvrage protestant, cette fois fort ancien, il date d'un siècle presque, 1886, mais que je trouve encore remarquable, L'histoire des dogmes de François Boniface, B-O-N-I-F-A-S, qui était professeur à la faculté de théologie de Montauban, celle qui s'est déplacée plus tard à Montpellier. Et cet ouvrage, qui est très peu répandu aujourd'hui, je crois que bon, il est considéré comme oublié, puis vous savez, il y a toujours une mode, comme il est vieux, on considère qu'il est dépassé. En fait, je trouve qu'il est encore très, très utile. C'est un ouvrage qui n'est pas d'une technicité très marquée, parce que ça correspond au cours donné par François Boniface à Montpellier. Il a été réalisé avec ses notes de cours, en fait, après sa mort. Donc, il n'entre pas dans tous les débats de spécialistes qui finissent souvent par s'emberlificoter. Il est extrêmement clair, les découpages sont d'une intelligence remarquable, et il est basé sur les sources primaires, comme hélas, ce que je vous dis ne l'est guère. Moi, je dépends des histoires des dogmes que j'ai pu utiliser, mais Boniface, car c'est un professeur d'histoire des dogmes, lui, Boniface a travaillé sur les sources primaires, c'est-à-dire sur les écrits des hommes de ce temps-là. Et il ne saurait faire guère aux discussions techniques entre collègues. Alors, c'est un ouvrage encore utile. Si vous le retrouvez jamais dans une librairie d'occasion, il vaut la peine.
C'était chez
Fischbacher, je crois, oui, chez Fischbacher. À l'époque, c'était le grand éditeur protestant. Aujourd'hui, il existe encore, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais à l'époque, c'était un grand éditeur. Alors, il couvre, c'est un ensemble en plusieurs volumes, deux volumes principaux, jusqu'à la réforme. Il ne va pas au-delà. Il ne fait pas donc l'histoire de la théologie protestante et puis moderne en général. Il va jusqu'à la réforme comprise. Alors, bon, j'ai utilisé un chapitre dans un livre de Gogel, protestant libéral, mais je ne le mentionne pas, je crois que je n'y reviens pas, je ne l'ai pas apporté avec moi. Et puis alors aussi des catholiques, maintenant. Gustave Bardi, B-A-R-D-Y, savant très, très coté, a écrit un ouvrage en deux volumes sur la théologie de l'Église. Alors le premier volume, c'est de Saint Clément de Rome à la fin du premier siècle, à Saint Irénée à la fin du second. C'est celui que j'ai apporté avec moi aujourd'hui, parce qu'il intéresse la période clé du deuxième siècle. Et le deuxième va de Saint Irénée jusqu'au concile de Nicée, au début du quatrième siècle, donc première partie du quatrième siècle. Alors c'est un ouvrage très scientifique, très poussé, c'est l'apologétique catholique romaine dans, je dirais, toute sa gloire. C'est-à-dire que Bardi est un savant, un érudit remarquable, mais alors il est encore, à son époque, c'est paru en 1945, l'avocat d'un catholicisme sans compromis aucun, sans indulgence pour le protestantisme. Seulement Bardi connaît les débats, lui écrit beaucoup plus pour des collègues, y compris protestants, qui vont contester ses vues. Alors, bon, son argumentation est serrée, c'est un ouvrage intéressant. Puis alors, j'ai utilisé aussi, parce que ça m'a été fort utile pour la préparation d'autres cours à Vaux-sur-Seine, l'histoire des dogmes en toute une série de volumes, un peu plus anciennes, 1930 ici, mais c'est la 12e édition déjà, de Tixeron, de Joseph Tixeron, T-I-X-E-R-O-N-T. En tout cas, c'est la dernière histoire des dogmes complète écrite par un catholique en français que je possède, que je connaisse même. Il y a des histoires de l'Église, alors beaucoup plus récentes, mais des dogmes, je n'ai pas tellement l'impression. C'est pas un ouvrage récent, donc, c'est un ouvrage qui est caractéristique de la science des années 1910-1920. Mais c'est un ouvrage pédagogiquement bien fait. Et Tixeron était un esprit assez ouvert. Dans la préface, d'ailleurs, celui qui le recommande indique bien qu'on lui a sans doute reproché son ouverture à l'époque au sein du catholicisme. Alors, c'était chez Gabalda, le coffre Gabalda, éditeur catholique important qui existe encore aujourd'hui, justement dans ce quartier Saint-Sulpice, hein, qui est le quartier de l'édition catholique. Et puis chez le même éditeur, une série assez voisine, mais qui est plutôt consacrée au Nouveau Testament, d'un certain Jacquier. Le volume que j'ai ici concerne le canon, préparation, formation, définition du canon du Nouveau Testament, 1911. Je l'ai pris surtout à cause d'une citation que j'aimerais vous lire tout à l'heure. On va voir un texte traduit en français. Ça peut être utile. Voilà en ce qui concerne donc les éléments bibliographiques que je pensais pouvoir vous mentionner. Un premier paragraphe de mon exposé rappelle la situation que le Nouveau Testament reflète. Il s'agit du point de départ en quelque sorte. Vous la connaissez sans doute, mais il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Alors j'essaie de vous le dire maintenant très brièvement, mais enfin, il me semble quand même indispensable d'y revenir en quelques instants. Tant que subsistent encore quelques apôtres, qu'en subsiste un au moins, l'apôtre Jean semble n'être mort qu'à un âge très avancé, c'est ce que dit la tradition et c'est ce que semblent bien confirmer les versets à la fin de l'évangile de Jean, qui sont là pour contrecarrer la rumeur selon laquelle il ne mourrait pas avant le retour du Seigneur. Donc ça montre qu'il vieillissait, et puis il est toujours là, alors que bien des gens avaient compris la parole dite par Jésus comme une promesse de vie jusqu'à la parousie, jusqu'au retour de Jésus. Alors jusqu'à la mort de l'apôtre Jean, il me semble qu'on peut dire que la norme de la foi dans les églises paraît double. On peut toujours d'ailleurs faire des distinctions, multiplier les dualités. Et en gros, fondamentalement, il y a les écritures de l'Ancien Testament . Il n'est pas douteux que l'on s'y réfère comme à une parole de Dieu infaillible qui détient souveraine autorité. C'est selon les Écritures, le refrain revient. Il est écrit déjà de Jésus, mais que l'on retrouve encore chez les apôtres. Tout ça est tout à fait formellement enseigné. Il y a l'exemple des Béréens que j'évoquais il y a quelques instants. Il y a le passage de 2 Timothée 3,16, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, etc. Il s'agit des écritures de l'Ancien Testament, puisque ce sont les saintes lettres que Timothée connaît depuis son enfance. Donc il s'agit bien de l'Ancien Testament. Il crois qu'il est juste de dire la Bible, pour les églises du Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. La Bible qu'ils ont entre les mains est faite des livres de ce que nous appelons l'Ancien. Et puis la deuxième norme, alors j'ai dit la norme de la foi est double, son deuxième volet, c'est l'enseignement du Seigneur transmis par ses apôtres. Les apôtres, ce sont les envoyés, mais dans un sens très précis. Le sens d'envoyés plénipotentiaires, de mandataires, d'ambassadeurs munis des pleins pouvoirs. Les apôtres ont une charge juridique pour qu'ils puissent représenter valablement le Seigneur et dire ce que le Seigneur veut qu'ils disent, de telle sorte que la parole qu'ils portent est la parole du Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute, dit Jésus. Précisant d'ailleurs que lui-même est l'envoyé du Père, pareillement muni des pleins pouvoirs, de telle sorte que celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Mais les apôtres, donc, sont les représentants envoyés, ambassadeurs de Jésus. Alors cet enseignement du Seigneur comprend non seulement ce qu'il a dit au cours de son ministère terrestre, qui a été recueilli, toutes les dispositions doctrinales et morales qu'il a prises, leur développement par les apôtres, selon les mêmes lignes, en vertu du don qui leur a été fait, du charisme apostolique nécessaire pour cela. Et l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est spirituel, par exemple, qu'il reconnaisse que ce qu'il écrit, pour régler une question dans l'église de Corinthe, l'usage du don de prophétie, de parler en langue, par exemple, eh bien, que c'est un commandement du Seigneur. 1 Corinthiens 14, un verset très important, ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Mais aussi, le témoignage des événements de la vie du Christ, de son œuvre. Les apôtres sont les témoins oculaires de ces événements. Vous savez que pour être apôtre, il fallait avoir vu le Christ ressuscité et vu de ses yeux de chair. Paul a été rajouté comme apôtre d'exception, comme l'avorton, dit-il, ou plus exactement comme celui qui est né en dehors du terme normal. Mais ayant vu le Seigneur, lui aussi, il a vu le Seigneur paraissant du ciel, mais il l'a vu aussi de ses yeux de chair, et pas seulement dans une vision spirituelle. Pour être apôtre, il fallait avoir vu le Seigneur. Donc l'enseignement du Seigneur, la parole du Christ transmise par ses apôtres, comprend le témoignage des événements clés de la mission du Christ et l'interprétation de l'Ancien Testament qui, pourrait-on dire, forme un seul tissu avec ce témoignage des événements, car il s'agit de montrer que ces événements sont ceux que l'Ancien avait annoncés. On pourrait dire qu'il y a la trame et la chaîne, vous voyez, qui s'entrecroisent. D'une part, l'attestation des faits qui ont eu lieu, et ces faits qui ont eu lieu n'ont d'ailleurs pas eu lieu dans un recoin obscur, ils ont des faits publics, mais les témoins oculaires ont été particulièrement choisis pour en rendre témoignage. Et puis, s'entrecroisant avec cela, tous les textes de l'Ancien Testament, que Jésus avait déjà commencé d'interpréter de cette façon, et que les apôtres reprennent et interprètent à la lumière des événements. Les événements sont interprétés à la lumière de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament à la lumière des événements. Je pense qu'on peut dire que l'enseignement du Seigneur transmis par les apôtres, ambassadeurs de Jésus-Christ, comprend cet ensemble-là. Événements interprétés. Ancien Testament et addition des enseignements moraux et doctrinaux du Seigneur et des apôtres. Alors la notion clé pour l'autorité dans l'Église semble être celle de l'office apostolique dont je viens de parler. C'est l'apôtre qui détient l'autorité. C'est parce que la tradition vient de l'apôtre qu'il faut la garder, ne pas s'en écarter, et c'est un dépôt à garder et à transmettre pour les générations suivantes, d'après les textes des épîtres pastorales en particulier, les épîtres à Timothée et à Tite. Cette notion de dépôt est importante. Le mot de tradition est employé aussi, par exemple, dans les épîtres aux Thessaloniciens. Le mot tradition veut dire transmission, plus précisément ce qui est transmis. Je vous ai transmis ceci, voilà, c'est la tradition. Peu importe, semble-t-il, la modalité, voix orale ou écrite. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2,15, souligne que les Thessaloniciens doivent s'attacher à ce qu'il leur a appris, à cette tradition apostolique qu'il leur a transmise, soit qu'il leur ait dit de vive voix, soit qu'il leur ait écrit, soit que c'était par lettre. Donc vous avez là une nouvelle dualité, la dualité de la forme de cette tradition apostolique sur l'enseignement du Seigneur. Donc, deux passages qui correspondent à la fin de la période apostolique, en tout cas au moins la deuxième génération, on trouve deux textes qui montrent que les écrits apostoliques peuvent être ajoutés à l'Ancien Testament sous le nom général d'écriture. Le passage le plus clair, le plus fort à cet égard, c'est celui de la seconde épître de Pierre, au chapitre 3. Vous savez que Pierre évoque ce que certains esprits mal intentionnés ou mal affermis tirent des épîtres de Paul. Il y a des choses difficiles à comprendre, dit-il, dans ces épîtres de Paul, et certains esprits en tordent le sens, comme des autres écritures. Le fait qu'ils disent des autres écritures montre que pour lui, les épîtres de Paul peuvent se ranger parmi les écritures. Alors bien sûr, la plupart des libéraux, il faut le sachiez, pensent que la seconde épître de Pierre n'est pas de Pierre, mais que c'est un écrit qui est déjà très tardif au cours du second siècle. Donc qui n'a été écrit peut-être que 60 ans après la mort de Pierre. C'est l'opinion régnante dans les cercles libéraux à propos de la seconde épître de Pierre. Mais nous pensons pouvoir plaider la thèse contraire, et considérer que c'est une épître authentique de l'apôtre Pierre peu de temps avant sa mort. Je signale que c'est tout spécialement ce que défend Michael Green dans son commentaire de la seconde de Pierre et dans différents autres textes qu'il a écrits, dans son commentaire de la série Tyndale, seconde de Pierre. Alors pour nous, ce témoignage a toute sa force. Il y a d'ailleurs aussi celui de la première à Timothée chapitre 5, où Paul cite deux passages pour prouver que les anciens qui travaillent bien doivent être convenablement salariés. Il dit comme il est écrit, selon qu'il est écrit, il cite le texte, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et la parole de Jésus dans l'évangile, l'ouvrier mérite son salaire. Or il cite cette parole, l'ouvrier mérite son salaire, comme une chose donc qui était écrite, avec la même formule que pour le texte de l'Ancien Testament. Ça suggère que déjà il avait associé les évangiles à l'ensemble de l'Ancien Testament. En dehors de cette autorité normative, semble-t-il absolue, qui requiert une obéissance entière, qui appartient à l'Ancien Testament et aux apôtres, il y a des prophètes et des docteurs qui jouissent d'une certaine autorité, c'est manifeste, dehors du collège apostolique. Leur autorité est une autorité seconde, relative, et si je comprends bien les textes, il faut qu'il y ait épreuve de ce que les prophètes et docteurs disent, selon l'analogie de l'enseignement, c'est-à-dire l'ensemble des grandes lignes de la doctrine des apôtres. le discernement des esprits, donc la première de Jean par exemple commande, a ceci pour critère. Tout esprit qui écoute notre parole apostolique est de Dieu. Mais celui qui s'en détourne n'est pas de Dieu. Voilà la pierre de touche, la conformité avec la parole apostolique. Quand Paul dit « ne méprisez pas les prophéties », c'est certainement des prophéties des prophètes de l'Église dans le Nouveau Testament qui l'envisage, il ajoute « examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Ça semble bien se référer dans 1 Thessaloniciens 5, 18, à un examen qu'il faut faire subir aux sermons prophétiques, aux choses que disent les prophètes, pour trier ce qui est bon et ce qui l'est moins dans ce qu'ils ont dit. Et cela ne peut se faire qu'avec une référence. Comment ce tri peut-il se faire? Eh bien, il se fait selon l'enseignement apostolique, bien que ce ne soit plus aujourd'hui l'opinion dominante, je crois quand même que l'analogie de la foi dans Romains 12 doit avoir ce sens objectif de proportion, juste proportion, selon l'enseignement apostolique. Vous savez que celui qui prophétise, dit Paul, prophétise selon l'analogie de la foi. Alors aujourd'hui, on comprend généralement qu'il prophétise selon le degré de foi personnel qu'il a. Ça me paraît personnellement assez peu en harmonie avec le reste de l'enseignement de l'apôtre Paul. J'ai du mal à vraiment saisir ce sens dans le passage. Et l'ancienne façon de comprendre me paraît quand même préférable, bien que j'ai quelques hésitations devant tant de gens qui disent le contraire, éminent. Mais il me semble quand même que l'ancienne opinion garde sa valeur. Le mot analogie veut dire proportion, en gros. Et le terme de foi peut être employé au sens objectif, la foi transmise au saint. Le régime, peut-être pas seulement la doctrine, mais le régime de la foi établi par le Nouveau Testament. Que celui qui prophétise demeure dans les grandes lignes, selon les proportions voulues, de ce régime de la foi établi par l'autorité apostolique.
L'expression implique elle-même dans l'original une action de comparer, l'action de comparer les éléments dans la proportion.
Oui, le mot analogia évoque d'abord les rapports mathématiques, les proportions comme mathématiques. Donc c'est bien un lien entre deux termes qui implique comparaison, on peut le dire, oui. En dehors de l'autorité de ces prophètes et docteurs, on peut signaler qu'il a existé certainement, dans la première génération, des abrégés de ce qu'il faut croire. Le texte le plus frappant à ce propos est sans nul doute le début de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Paul énumère les points décisifs dans lesquels il faut demeurer. Les autres apôtres et lui en sont pleinement d'accord. Ils ont tous enseigné la même chose. Et Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Paul rappelle ici une sorte de court catalogue des vérités fondamentales et on pense généralement que c'est pas lui qui l'a composé à ce moment-là, qu'il préexistait, que c'était une sorte d'abrégé de la foi qui était déjà en circulation et qui pouvait donc définir ce qu'était la foi chrétienne pour les premières églises. Dans les Épîtres à Timothée, il fait allusion plusieurs fois à des paroles sûres, entièrement dignes d'être reçues. Comme il emploie plusieurs fois cette même formule, on pense qu'il se réfère à une sorte de petit catalogue. Voilà des énoncés clés sur lesquels il est possible de faire fond. Donc, il devait exister, peut-être lié d'ailleurs à des formules chantées, oui, comme ce que cite justement la première à Timothée chapitre 3, cette parole est sûre et digne d'être reçue, celui qui est manifesté en chair, etc. Vous avez une sorte de confession christologique, là, en forme d'hymne, avec un parallélisme poétique, et on peut penser qu'il existait des sortes d'abrégés de la vérité de foi à croire que l'on chantait, ou peut-être psalmodiait, que l'on chantonnait dans le culte à l'époque. Celui qui a été manifesté en chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, reçu dans la gloire. Avec un schéma de correspondance qui est intéressant à observer. Il est aussi question parfois d'un type de doctrine, d'un modèle des saintes paroles reçues de l'apôtre. Ce type de doctrine n'est pas forcément un abrégé. Là, ça peut désigner la structure de l'ensemble de la doctrine chrétienne. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à noter. Paul emploie de telles expressions. Alors, nous n'avons plus que quelques minutes, comme nous sommes entretenus à propos de la bibliographie. Je ne vais pas traiter de toute la période que j'avais indiquée. Nous reprendrons cela, Dieu voulant, dans un mois, dans 4 semaines, en mars. Mais je vais quand même indiquer ce qui, à mes yeux, concerne la période post-apostolique immédiate, 50-60 ans après la mort du dernier apôtre. Parce que j'ai relativement moins à en dire. Enfin, je vais quand même prendre 5 minutes pour ça, si vous pouvez l'admettre. Mon sous-titre, c'est le flou de la période post-apostolique. Il y a peu de développements très marqués, peut-être faute d'hommes très marquants. Une théologie rudimentaire s'ébauche, mais très rudimentaire quand même. Je pense souvent à la période des juges succédant à Moïse. Et Josué, bien sûr. Alors que Moïse, dans l'Ancien Testament, avait fait atteindre de telles hauteurs de richesse doctrinale, de rigueur, etc., les juges, même ceux qui ont été suscités par Dieu, n'avaient pas la même envergure et les mêmes capacités. C'est un petit peu comme ça pour les hommes des générations qui ont suivi. On parle souvent de pères apostoliques, on devrait dire en fait sub-apostoliques, parce que ne sont pas de la période apostolique, mais après. Mais ce sont des hommes qui se veulent respectueux, foncièrement, des mêmes normes que les hommes du Nouveau Testament. S'ils n'approfondissent pas davantage, bien c'est que l'Église est encore quand même relativement peu nombreuse, et faite surtout de petits peuples, il y a beaucoup d'enthousiasme, elle gagne, mais elle n'a pas encore atteint une très grande visibilité culturelle. Alors, avec les Écritures de l'Ancien Testament, qui demeurent autorité sans discussion, l'autorité de l'Évangile et des apôtres est décisive. Des auteurs comme Ignace d'Antioche ou Polycarpe marquent bien très nettement la différence entre l'autorité des apôtres. Je ne suis pas apôtre, je ne peux pas vous commander comme notre bien-aimé frère Paul. Il avait une sagesse que je ne peux pas réclamer. Et très nettement, il y a une différenciation qui est faite entre les apôtres et puis ces dirigeants de l'Église venus après eux dans la génération subapostolique. Ils citent les évangiles, ils n'ont certainement pas tout le recueil, mais ils ont un certain nombre des textes variables selon les lieux. Parfois, ils les citent comme écriture, avec la formule « il est écrit » par exemple. Ça se trouve encore très peu chez Clément de Rome, mais c'est plus visible chez d'autres, et dans l'épître dite de Barnabas par exemple, vous avez un exemple tout à fait clair. On pourrait dire que leur référence est à la tradition apostolique, qu'ils appellent encore le canon, c'est règle. Le mot canon a le sens ici de règle, c'est son sens premier, de règle de la foi. La première de Clément, par exemple, Clément de Rome, avant la fin du premier siècle, emploie cette expression. Mais dans cette tradition apostolique, tous en tout cas ne semblent pas privilégier l'écrit, les textes des épîtres ou des évangiles qu'ils ont entre les mains. Ils s'y réfèrent, ils ne doutent pas de leur autorité, c'est sûr, mais Ils aiment bien évoquer les souvenirs personnels qui leur ont été transmis par des gens qui ont connu les apôtres. Ou si eux-mêmes ont connu les apôtres, même tout petit, tout jeune, ont été au pied d'un apôtre, alors ils aiment beaucoup mettre ça en valeur. C'est le cas en particulier de Papias d'Hierapolis, donc qui a été évêque ou épiscope d'Hierapolis, qui donne une sorte de priorité aux souvenirs personnels plus vivants à ses yeux. Voici ce qu'il écrit, ça a été préservé dans un texte bien plus tardif d'Eusèbe dans son histoire ecclésiastique, mais enfin on ne doute pas en général de l'authenticité de ce texte de Papias, qui se situe entre 120 et 140 après Jésus-Christ dans les dates. Pour toi, je n'hésiterai pas à disposer en ordre, avec des explications, toutes les choses que j'ai bien apprises des presbytres, c'est-à-dire des anciens, et dont je me suis bien souvent souvenu, étant bien assuré de la vérité de ces explications. Car je ne me plaisais pas, comme le font la plupart, auprès de ceux qui parlent beaucoup, mais auprès de ceux qui enseignent les choses vraies, ni auprès de ceux qui rapportent des préceptes étrangers, mais auprès de ceux qui rapportaient les commandements donnés à la foi de la part du Seigneur et venus de la vérité elle-même. Si quelque part arrivait quelqu'un qui avait suivi les presbytres, l'ancien, je les questionnais sur les dires des presbytres, ou sur ce qu'avaient dit André, ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelque autre des disciples du Seigneur, sur ce que disent Aristion et le presbytre Jean, disciples du Seigneur. Car je ne pensais pas que les choses qu'on peut tirer des livres me fussent aussi utiles que celles qui viennent de la parole vivante et demeurante. Et là, Papias donne une certaine priorité à ses souvenirs encore vivants à ses yeux, plutôt qu'aux écrits. Il a les livres, il ne les méprise pas, mais il les met à un second rang. Alors je crois qu'on peut dire deux choses à ce propos. D'abord, faut pas trop s'étonner. D'une part, quelqu'un qui n'a pas encore vu les problèmes que peut poser la déviation d'une tradition simplement orale peut avoir l'impression que c'est bien plus amusant, bien plus vivant d'avoir quelqu'un qui était « Ah oui, il a entendu Jean qui a dit ça », etc. Ça peut correspondre à une psychologie spontanée et naïve. En plus, ça le valorisait. Ça, c'est très important. Parce que en sa génération, vers 130-140, il était un peu le seul qui pouvait dire « Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré Jean, qui m'a dit ça, etc. » Ça lui donnait de l'importance. Ça joue certainement beaucoup dans l'espèce de privilège qu'il pouvait attribuer à cette tradition orale. Et puis la deuxième grande chose qu'on peut dire à ce propos, c'est que les dangers en apparaissent déjà chez Papias. Même les catholiques aujourd'hui, les commentateurs catholiques dans ses livres, reconnaissent qu'il s'est montré d'une crédulité assez ridicule. Il raconte des tas de choses tout à fait sérieusement que lui ont rapporté ces gens qui avaient connu les anciens qu'une absolument plus couleur de plausibilité. Mais il ne s'en rend pas compte. On perçoit chez lui, qui est encore pourtant assez proche de cette génération, les dangers qu'implique la confiance faite à ceux qui se colportent comme ça oralement, sans la fixation de l'écrit. Voilà donc ce qu'on peut dire pour cette attitude de plusieurs. On ne peut pas dire qu'elle était générale, nous n'avons pas les preuves voulues. Il y en a eu certainement comme Papias, qui privilégiait cet aspect oral, mais d'autres sans doute étaient plus prudents. On peut ajouter simplement qu'Ignace d'Antioche a eu affaire, lui, à des perturbateurs, faux docteurs, qui ressemblent à ceux que les épîtres de Jean combattent dans le Nouveau Testament lui-même, en particulier des docètes, qui niaient la réalité de l'humanité du Christ. Et alors, face à eux, il insiste, mais de façon quasi frénétique, sur l'autorité de l'évêque. On voit bien comment ça se passe chez lui. Bon, c'est un esprit de toute façon passionné, emporté, qui ne s'exprime pas de manière très claire et précise. Il ne définit rien juridiquement à propos du pouvoir de l'évêque, mais il a des formules à l'emporte-pièce, énormes, et l'évêque c'est pratiquement Dieu sur la terre, dans son église. Il représente Dieu, et tout doit tourner autour de lui. Et l'Eucharistie, par exemple, n'est pas valable si l'évêque ne la préside pas. Une concentration des pouvoirs entre les mains de l'évêque, bien parce que le pauvre Ignace a l'impression que s'il lâche tous les faux docteurs vont alors semer la pagaille partout.
Il est aussi évêque ?
Il est évêque, oui, il est évêque d'Antioche. Mais en dehors de ce développement, donc, on peut dire qu'il y a sur ce point anticipe de plusieurs générations ce qu'on trouvera ailleurs dans l'Église. Il est le seul, à son époque, à distinguer l'évêque, par exemple, des anciens, à faire trois rangs dans le ministère. Ça deviendra la structure ensuite. Mais beaucoup plus tard seulement, dans le deuxième siècle. Lui qui écrit dans la deuxième décennie du deuxième siècle, semble-t-il par réaction contre les dangers d'une certaine anarchie avec occasion qu'elle donne à des manipulateurs habiles, réagit en donnant les pleins pouvoirs à l'évêque, un évêque de type monarchique. Autrement, en ce qui concerne l'enseignement dans les églises de cette époque, il semble que l'exégèse typologique et déjà plus ou moins allégorique commence à se développer. C'est tout spécialement dans l'épître de Barnabas, pseudo-Barnabas comme on dit, parce que c'est un pseudonyme qu'a pris l'auteur, c'est pas le Barnabas du Nouveau Testament, c'est un autre auteur, mais qui a pris ce nom-là comme nom patron. Dans cette épître, nous avons une exégèse déjà assez échevelée, typologique, mais qui a surtout pour but de montrer aux Juifs, avec lesquels il y a déjà un dialogue continu qui se déroule, que l'Église est la véritable héritière de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament vise les événements du Christ et de la vie de l'Église. Et finalement, le dernier point qui intéresse notre sujet, que je vois à mentionner, c'est la persistance d'un phénomène de prophétie assez nettement distincte de l'enseignement. C'est surtout le livre qu'on appelle la didaké, c'est-à-dire l'enseignement, la doctrine en fait. C'est le mot grec pour enseignement ou doctrine. C'est un abrégé du titre, la doctrine des 12 apôtres. Ce petit livre fixe des règles très précises à propos des prophètes, en particulier de prophètes itinérants arrivant dans une église. Et il y a une différence marquée avec le Nouveau Testament, qui est intéressante à observer. Alors que dans le Nouveau Testament, ces prophètes, qui semblent principalement des prophètes à demeure d'ailleurs dans les églises, sont considérés comme faillibles, de telle sorte qu'il faut trier dans ce qu'ils ont dit. Le bon grain divin, et puis la balle d'une enveloppe humaine, simplement, alors que ces prophètes dans le Nouveau Testament sont considérés comme faillibles, ce n'est semble-t-il plus le cas pour les prophètes, on parle de la didaké. La didaké a l'air de considérer que c'est une impiété, si un prophète a dit quelque chose, de se mettre à le décortiquer, pour savoir si oui, si non. Il faut prendre tout en bloc. Il y a une attitude qu'on pourrait dire beaucoup plus superstitieuse, là je me rends compte que j'emploie un terme très chargé, à l'égard de la prophétie non apostolique dans les églises. Il y a quand même un contrôle qui doit s'exercer, ils se rendent bien compte. Mais c'est un contrôle qui concerne la personne du prophète et ses fruits moraux. Il s'agit de le mettre à l'épreuve. Par exemple, s'il reste plus de 2-3 jours à se faire entretenir, c'est un faux prophète. Alors là, expulsez-le, vous ne retenez rien de lui. S'il dit de dresser une table pour faire manger les pauvres, très bien, obéissez, hein, faut obéir. Mais s'il se met lui-même à manger, alors c'est un faux prophète. Éjectez-le. C'est un critère moral sur son comportement à lui. S'il apparaît un homme intéressé, alors là, on va dire que c'est un loup déguisé en mouton, et il va falloir le chasser. Mais si on ne peut pas dire que c'est un faux prophète, alors il semble qu'à l'égard de sa prophétie, on aura une attitude d'abdication totale de tout sens critique. Il faudra le respecter comme parole de Dieu. Alors je pense qu'il y a un décalage marqué par rapport au Nouveau Testament, et que c'est peut-être intéressant, mais ça concerne aussi l'autorité en matière de foi et de conduite dans l'Église. Voilà donc ce que nous pouvons dire de cette période. Alors la vraie période de formation des tendances nouvelles, c'est celle qu'on a pu appeler celle de l'adolescence de l'Église, ensuite à partir en gros de la moitié du milieu, disons, du deuxième siècle. Alors je reporte tout cela à notre séance de mars.
C'est amusant parce qu'on a l'impression que la Terre n'a pas beaucoup tourné depuis. Les mêmes réflexes, les mêmes
réflexes. Oui, je pense qu'il y a dans la psychologie ordinaire des hommes un certain besoin de toucher le surnaturel de telle sorte qu'on abdique toute nécessité d'examiner, de peser. Donc on peut se laisser aller en quelque sorte en se considérant comme non responsable. C'est toujours fatigant malgré tout de devoir dire « Ah voyons, je prends mes responsabilités, c'est vrai, ce n'est pas vrai, etc. » Alors, il y a comme une sorte de fascination pour un type d'expérience où on se laisse entièrement prendre en charge par une autorité qui est considérée comme l'autorité infaillible de Dieu lui-même. Voilà, alors merci pour vos interventions.